France Musique. France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Nous sommes le 19 juin, aujourd'hui nous apprenions il y a exactement 4 ans, en 2017, l'existence de nouvelles planètes potentiellement habitables.
Oui, il s'agissait d'une dépêche de la NASA nous informant que le télescope spatial Kepler avait découvert 219 nouvelles exoplanètes, dont 10 d'entre elles d'une taille proche de celle de la Terre avec la capacité à contenir de l'eau et donc de la vie. Et c'est donc de la musique des sphères dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'habitude, lorsque nous associons cosmos et musique, on pense à ce que nous écoutons là, on pense aux planètes de Gustav Holst ou alors aux cuivres éclatants des premières mesures d'Ainsi parlait Zarathoustra sur les premières images de 2001 Odyssée de l'espace. Et pourtant, aujourd'hui, avant de partir avec vous très loin dans l'immensité du cosmos, je voudrais faire un voyage très loin, mais dans le temps. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, à Samos, île grecque dans la mer Égée. À cette époque, les savants observent le monde autour d'eux pour tenter de deviner les intentions divines, pour trouver un ordre, un système numérique qui puisse englober le monde entier, qui puisse expliquer à la fois les formes compliquées des feuilles de vigne et les constellations sur la voûte étoilée. À Samos, on y trouve Pythagore, qui se pose la question suivante. On mesure l'espace, on mesure le temps, mais comment mesurer le son ? Pour mesurer quelque chose, il faut au moins deux points. Parce qu'une note toute seule, c'est pas grand-chose. C'est quand il y a plusieurs notes que ça devient intéressant. Et donc, comment mesurer la distance entre deux notes ? Je vais vous montrer comment il a fait. Je prends une corde. Si je la tends et que je la pince, elle produit une note sur toute sa longueur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que je vais faire là. Je la mesure, elle fait à peu près 44 cm. Si je place mon doigt pile au milieu, c'est-à-dire à 22 cm, voilà ce que ça donne. Comme la corde, le son est divisé en deux, si je puis dire. Je me retrouve avec une octave. Et maintenant, si je bloque la corde aux deux tiers et que je la pince, je me retrouve avec une quinte. Ce qui veut dire que les intervalles qui sonnent bien, qui sonnent juste comme les octaves, les quartes et les quintes, sont issus de proportions assez logiques, des moitiés, des deux tiers, etc. Voyons maintenant à quoi ça nous sert dans le cosmos. En 1619, 2200 ans plus tard, Johannes Kepler poursuit le travail de mesure de l'univers entamé par Pythagore. Il est astronome et mathématicien impérial à Prague, dans un 17e siècle où on commence à avoir une idée plutôt précise des corps célestes qui nous entourent. Johannes Kepler fait alors une découverte qui va tout changer. Il reprend les mesures de la trajectoire de la planète Mars qui avait déjà été effectuée par son collègue et il s'aperçoit que l'orbite de la planète autour du Soleil n'est pas un cercle, mais une ellipse. Et ça, ça change tout. Parce que tout à coup, on s'aperçoit que le système solaire est beaucoup plus dynamique. Ça veut dire que dans la trajectoire des planètes, il existe une extrémité, le point où la planète est la plus éloignée du Soleil, et une autre extrémité où la planète est la plus proche du Soleil. Avec des changements de vitesse. Au lieu de simplement tourner autour du Soleil, les planètes s'en éloignent et s'en rapprochent.
Comme le doigt de Pythagore sur la corde.
Voilà, c'est ça, celui de tout à l'heure. Et ça y est, nous l'avons, notre musique des sphères. Dans son Harmonicus Mundi de 1619, Johannes Kepler énonce sa troisième loi. T au carré est égal au cube de R, où l'emplacement du Soleil est une constante.
Et comment il le représente ?
Eh bien, il utilise la métaphore de la musique pour mieux nous faire comprendre comment ça marche. Prenons l'orbite de la Terre. Elle est vaguement elliptique. Elle est presque circulaire autour du Soleil, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre son point le plus éloigné du Soleil et son point le plus proche du Soleil. Et pas beaucoup de distance dans une gamme, et toute proportion gardée, c'est un demi-ton. Si vous prenez une corde qui représente soit une gamme, soit l'orbite de la Terre, la distance qu'il y a dans le demi-ton est la même qu'entre le point où la Terre est la plus éloignée du Soleil et le point où la Terre est la plus proche du Soleil. Kepler modélise ainsi tout le système solaire. L'orbite de Mercure, par exemple, est très elliptique, très allongée. Mercure peut être à la fois très proche du Soleil et très éloigné, ce qui, dans la gamme, fait une octave plus une tierce. Au contraire, la trajectoire de Vénus est complètement circulaire. Il n'y a donc pas de point éloigné ou proche, on a un unisson. On dit toujours que la musique et les mathématiques sont liées. Et là, nous en avons la preuve. Grâce aux proportions, quelque chose d'aussi gigantesque qu'un système solaire peut tenir sur une portée. Et non seulement ça peut tenir sur une portée, mais en plus, les écarts entre ces périhélies et aphélies, ces points proches ou éloignés du Soleil, proposent aux musiciens une certaine façon de tempérer la gamme. Ces écarts entre les notes planétaires sont une solution au problème jamais vraiment résolu de la distance entre chaque note.
Merci beaucoup Christophe Dilis pour votre chronique, évidemment, qu'on peut retrouver sur notre site francemusique.fr, passionnant.
Merci. Merci beaucoup. Évidemment, c'est que des grandes lignes que je trace en 5 minutes, mais voilà, j'espère avoir donné envie d'aller plus loin, Gabriel.
Bon week-end.
Bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.